Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Antoine Dulster et Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Déborah Dagobert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale. C'est avec nos partenaires du monde. On retrouvera tout à l'heure Marc Semo. Cette semaine, un nouveau rapport a été publié sur les atteintes aux droits de l'homme en Chine et en particulier les exactions menées par le pouvoir central à l'encontre des Ouïghours, minorités turcophones et musulmanes du Xinjiang. Selon l'anthropologue allemand à l'origine de ce travail, Adrian Zenz, qui s'est appuyé sur des milliers de documents officiels des autorités chinoises qu'il accumule depuis des mois, Pékin aurait transféré au moins 570 000 personnes pour travailler dans les champs de coton dans le cadre d'un programme obligatoire géré par l'État. Pour Pékin, ces travailleurs sont en réalité des étudiants qui ont fréquenté des centres de formation. Et Adrian Zen serait, selon les dires, en tout cas du porte-parole du ministère chinois, l'épine dorsale d'instituts de recherche anti-Chine créés et pilotés par le renseignement américain. Alors qu'en est-il réellement? Que sait-on du sort réservé à cette minorité chinoise? Comment Pékin organise-t-il la répression à l'encontre des populations qui ne partagent pas sa vision du monde? Et comment également cette question s'immisce dans les affaires diplomatiques du côté des États-Unis où on n'hésite pas à faire voter des sanctions ou du côté européen où on semble plus mesuré? Pour évoquer toutes ces questions, on aura tout à l'heure Vanessa Franville et également Marc Julienne. Mais avant de les retrouver, comme chaque vendredi, place à notre partenariat avec l'association des prix Albert Londres, notre retour d'eux. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Bosnie-Herzégovine. Bonjour Rémi Ourdan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Rémi Ourdan, vous êtes journaliste pour Le Monde, vous rentrez tout juste de Bosnie-Herzégovine où vous avez passé plusieurs jours. C'est un pays que vous connaissez particulièrement bien puisque à l'époque de la guerre vous étiez parti pour vous y installer en 1992 et depuis vous avez continué à suivre de près cette actualité. Il y a 25 ans Rémi Ourdan, en décembre 95 étaient signés les accords de Dayton qui mettaient fin au conflit interethnique. Le texte avait abouti à la partition de la Bosnie-Herzégovine avec d'un côté la Fédération de Bosnie-Herzégovine à majorité croato-bosniaque et puis la République serbe de Bosnie, évidemment à majorité serbe. Alors, quand on regarde l'actualité plus immédiate, Rémi Ourdan, il y a ces derniers mois, des élections municipales qui ont vu l'émergence d'une nouvelle génération de politiques et vous avez justement réalisé un tour d'horizon, cette jeunesse engagée politiquement un peu partout dans le pays à travers quelques portraits. On va justement les évoquer ensemble, mais d'abord, peut-être un point un peu général, Rémi Ourdan. Je lis le début de votre papier. Il y a eu la génération de la guerre, assassinée, meurtrie, sacrifiée sur l'autel du retour des nationalismes. 25 ans plus tard, il y a la génération perdue, celle d'un après-guerre absurde dans un pays fracturé et exsangue où les lueurs d'espoir sont tellement rares. Un quart de siècle après les accords de Dayton, ces fractures communautaires, elles sont absolument pas réparées, Rémi Ourdan.
Ben non, et Dayton n'a rien fait pour. C'est-à-dire que le soir de Dayton, il faut dire la vérité, il y a 25 ans, on le savait. Malheureusement, 25 ans plus tard, on n'a pas de surprise, en fait. Dayton était un outil fantastique, enfin, en tout cas, le seul outil à disposition à ce moment-là pour arrêter le carnage, après près de 4 ans de guerre. Mais c'était aussi, donc, la victoire des nationalistes, donc des deux pays voisins, d'abord Serbie et Croatie, de leurs alliés nationalistes, bosno-serbes d'un côté, bosno-croates de l'autre. Et c'était la défaite des antinationalistes. Donc, 25 ans plus tard, Dayton a contribué à faire en sorte que le pays reste divisé. Et j'ai trouvé, en allant voir justement, là cette fois-ci, uniquement des jeunes, nés autour de 1995, et notamment des jeunes qui ont participé à ces municipales de la mi-novembre, j'ai trouvé pour certains, à part les Sarajeviens, à part quelques îlots urbains, quelle que soit leur communauté là, mais j'ai trouvé que dans le pays ils étaient peut-être encore plus nationalistes que leurs aînés, c'est-à-dire que leurs aînés se sont fait la guerre, mais au moins savaient-ils à qui ils faisaient la guerre, ils connaissaient l'autre, ils avaient vécu sous la Yougoslavie, alors que ceux-là, comme ce jeune maire de Banja Luka, n'a jamais vu un nom serbe de sa vie.
Alors justement, ce jeune maire, Drasko Stanivukovic, maire de cette ville, Banja Luka, qui est la capitale de l'entité de la République serbe de Bosnie, c'est un tout jeune homme, hein, 27 ans, qui vient d'être élu lors des municipales de ce 15 novembre dernier. Vous nous dites qui il est et le projet politique qu'il porte.
Alors d'abord, c'est un jeune homme de non seulement de bonne famille, mais d'une des plus grosses fortunes de la ville. Et une fortune pas inintéressante, parce que l'une des rares fortunes qui ne s'est pas fait avec le système dodique du nom de l'homme fort de la République serbe depuis une vingtaine d'années. Donc, en tout cas, aucun dossier de corruption n'a jamais été trouvé contre sa famille. Donc c'est un jeune homme fortuné, élégant, éduqué, etc., mais qui représente en République serbe une vraie opposition à ce système dodique, un système très mafieux et très corrompu. Donc il y a un vrai enthousiasme des jeunes de Banja Luka envers ce jeune nouveau maire. Mais évidemment, enthousiasme qui n'est pas partagé par les autres communautés ou ailleurs dans le pays, parce qu'il est au moins aussi nationaliste. Voire peut-être plus, enfin en tout cas plus purement nationaliste, plus intrinsèquement nationaliste. C'est-à-dire que, alors il est aussi, comme des jeunes de sa génération, il se dit pacifiste, il dit que, voilà, il veut absolument tout faire pour éviter un nouveau conflit, mais à aucun moment il ne pense aux autres. Donc la Serbie est la mère patrie, la République serbe, donc cette sorte d'entité qui représente la moitié du territoire de la Bosnie-Herzégovine, ben voilà, c'est le territoire à défendre. Et puis, mais à aucun moment il ne pense à ce que c'est qu'un Bosniaque, un Croate, à ce que c'est que Sarajevo, ce que c'est que la Bosnie ou ce qu'a été la Yougoslavie. Si vous voulez, ça n'existe pas. Il a grandi, il est le représentant de sa génération. Il a grandi dans un territoire ethniquement pur. Et c'était le but de la guerre, ça a été sanctuarisé par Dayton, et ce jeune garçon ne sait pas ce que c'est que le reste du monde, à commencer par ses voisins qui vivent à 200 kilomètres.
Mmh. Ouais, tout ce qui est non-serbe, finalement, ne rentre pas dans son logiciel, même s'il dit qu'il respecte évidemment le cadre de Dayton. Mais c'est la première fois qu'un parti, Rémi Urdan, d'opposition parvient à ravir la mairie de Banja Luka, dans un paysage politique, vous le disiez, qui est dominé depuis au moins une quinzaine d'années par Milorad Dodik, qui était président de la République serbe de Bosnie jusqu'à 2018, de 2010 à 2018, qui a été membre du collège présidentiel de Bosnie-Herzégovine, qui est composé, rappelons-le, ce triumvirat qui exerce collégialement la fonction de chef de l'État. Mais est-ce que la victoire du jeune édile, c'est pas d'abord précisément la défaite de Dodik, de son parti, de son système?
Oui, c'est ça. Alors, il y avait déjà eu un intermède, alors pas à la mairie de Banja Luka, mais au poste de premier ministre de la République serbe à un moment, dans les années 2000, où ce parti d'opposition avait exercé quelques années le pouvoir. Bon, donc, mais là, pour Dodik, d'abord, ça vient 10 ans plus tard, il pensait être tout à fait intouchable et avoir encore, évidemment, consolidé son pouvoir. Et puis, la mairie de Banja Luka, bah, c'est le siège, hein, c'est la capitale, entre guillemets, de l'entité. Donc, c'est un symbole fort, et puis, c'est pas les vieux opposants, quoi. C'est un jeune, ça représente une nouvelle génération, ça représente peut-être un renouveau, en tout cas pour les jeunes de République serbe. Donc pour Dodik, c'est un danger. D'ailleurs, il était absolument furieux. Mmh. Et il a dit qu'il allait couper tous les crédits de la mairie et s'employer à lutter avec l'argent public, ou plutôt l'absence d'argent public contre cette nouvelle menace. Mais voilà, ça n'est un renouveau que pour... alors c'est bien peut-être pour les jeunes de Banja Luka, mais ça n'est un renouveau que pour eux, mais pas du tout pour la Bosnie-Herzégovine.
Alors, autre portrait, Rémi Urdan, à retrouver dans votre reportage du Monde, celui de Janja Marušić. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement. Peut-être que vous ferez mieux que moi. Sûrement même.
Oui, Marušić.
Marušić, voilà. Qui est une jeune juriste qui a découvert il y a quelques mois qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques, mais qui continue de se battre. Et cette jeune activiste se présente au municipal dans la ville de Mostar. Je dis se présente parce que ça sera ce week-end, les élections. Elle est membre de l'Union démocratique croate, qui est un parti nationaliste bosno-croate. Même question. Qui est cette femme et quel est son projet politique?
Alors elle, en comparaison avec le maire de Banja Luka, elle n'est pas tête de liste, hein, elle ne sera pas maire de Mostar, mais son parti gagnera dans la partie croate, a priori, parce que les nationalistes y sont très forts. Et ben voilà, idéologiquement, elle est un peu son pendant. Alors pas en poids politique, parce qu'elle n'est que numéro dans les numéros 10 environ sur la liste, mais elle sera élue. Et je l'ai choisie elle parce que j'avais décidé de faire que des jeunes de 25 ans, et puis parce que son père vient de mourir, elle va lui succéder au conseil municipal, il est mort du Covid il y a quelques semaines. Bon, donc il y avait, mais idéologiquement ils sont très proches, donc de même que lui croit en une terre serbe, elle croit en une terre croate, voilà. Et l'État de Bosnie-Herzégovine, qui était tout de même un État serbe divisé, mais enfin reconnu par la communauté internationale en 1992 et reconnu dans l'accord de paix de Dayton. Bah, la concerne pas plus que le maire de Banja Luka, si vous voulez. Elle est complètement tournée vers la Croatie. Sa vision du monde est croate. Et avec même, je dirais, par rapport non seulement aux Bosniaques, Et à tous ceux qui se sentent bosniens, mais aussi aux Serbes, un petit sentiment de supériorité qu'on a senti s'accentuer depuis que la Croatie est dans l'Union européenne depuis quelques années. Et elle dit des phrases comme, en gros, dans les Balkans, seuls nous, les Croates, pouvons amener cette région vers l'Europe.
Mmh. Voilà. Je rappelle, s'agissant de la Bosnie-Herzégovine, qu'elle a déposé une candidature officielle pour adhérer à l'Union européenne en 2016, même si on sait bien que du côté de l'Union européenne, ça sera difficile. Mais en tout cas, cette adhésion, officiellement, la candidature a été posée. Mais vous dites, elle est pareille que ce jeune maire dont on parlait juste avant, mais il y a quand même une différence, c'est que Mostar n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville où, évidemment, les communautés sont géographiquement séparées, mais il y a quand même des lieux d'échange, des lieux de frottement. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler ici avec, avec une personne qui nous expliquait que quand même, quand on va au travail, quand on va au supermarché, il y a quand même des lieux de frottement. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette jeune Marušić? Voilà. Est-ce qu'elle considère que il faut continuer dans cette voie-là, ou est-ce que au contraire, elle dit bah faut rompre avec ces frottements-là?
Alors voilà, la différence effectivement de Banja Luka, il n'y a pas un nom serbe à 200-300 km à la ronde. Mostar est une ville divisée en son centre, le long de la rivière. C'est même devenu un symbole mondial, voilà, d'une ville divisée. Et effectivement, même si elle a une vision totalement croate du monde, elle rencontre des jeunes bosniaques, donc de Mostar Est, la zone croate étant Mostar Ouest, parce que certains vont y travailler, certains vont à l'université de Mostar Ouest, est à ses côtés et très fortement soutenu par la Croatie. Donc plein de jeunes bosniaques musulmans y vont. D'ailleurs, de même que plein de Croates de Croatie ou même d'étudiants de l'étranger. Et elle a été présidente de l'association des étudiants il y a quelque temps. Donc, dans une ville même divisée, mais parce que c'est une ville partagée, entre guillemets, on rencontre quand même un peu l'autre, contrairement à ce qui se passe à Banja Luka.
Et elle, ça lui va
Précise. Ça lui va à partir du moment où elle dit à partir du moment où le parti nationaliste croate gagne et où c'est les Croates qui mènent la danse pour amener tout ce monde-là vers l'UE un jour.
Donc, tant que c'est les Croates qui guident l'ensemble des Bosniens, tout va bien.
Ouais. Ça lui va pas si on lui dit demain on va réformer Dayton pour que la Bosnie existe enfin en tant qu'État unifié. Ça lui ira pas du tout. Non.
Alors Rémi Urdan, troisième portrait, peut-être plus marginal, mais ô combien intéressant, Branko Šešlić, j'espère que je prononce pas trop mal.
Šešlić,
voilà. Oui. Bon, 26 ans, élu à Kakanj. Je rappelle, c'est toujours des jeunes que vous avez choisi. C'est un représentant, lui, du camp antinationaliste, du parti Notre Parti. C'est l'une des révélations, vous dites, de ces élections. Vous nous présentez ce jeune, et pareil, son projet politique.
Alors lui, c'est un jeune croate aussi, mais donc qui défend la ligne bosnienne, d'une Bosnie unie et antinationaliste. Donc effectivement, ce jeune parti qui était né en 2008 à Sarajevo et que tout le monde pensait qu'il resterait assez sarajevien, qui était créé par des artistes et des activistes sarajeviens, et qui effectivement pendant des années est resté très sarajevien avec juste deux élus au canton. On en reparlera peut-être parce qu'ils viennent de rafler la municipalité, mais là a réussi à quand même faire émerger une nouvelle génération en province, à la campagne, et alors qui n'ont pas forcément emporté les mairies, mais qui ont été élus pour la première fois, l'une des premières fois. Et donc il a été élu. Alors lui, il représente la ligne vraiment d'une Bosnie où tout le monde vit ensemble. Il est croate, mais dans le village d'à côté, il y a des bosniaques musulmans. Il est passionné. Alors il a autant que les nationalistes le patriotisme à fleur de peau, le goût du passé, de la mémoire, de l'histoire du pays. Il nous a emmené à Bobovac, qui est le lieu des rois de Bosnie avant l'invasion ottomane. Qui est un peu le parce que ce pays, la Bosnie, n'a quand même jamais existé avant 1992. Donc sauf là, donc il nous a amené dans les ruines des anciens rois de Bosnie du XIVe siècle. Donc voilà, un jeune très attaché à tout ça, mais lui très tolérant, très ouvert au monde, et qui vient toutes les semaines à Sarajevo, mais qui de même pourrait aller à Banja Luka. Enfin, qui croit que ce pays pourrait, comme ça s'est fait d'ailleurs, faut le signaler, après d'autres guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, ou après la Première, ou après les guerres balkaniques, etc., que les gens pourraient revivre ensemble, et que s'ils ne vivent pas ensemble aujourd'hui, c'est la faute des politiciens et de Dayton.
Alors, Rémi Urdan, j'avais prévu de parler d'une autre révélation de la campagne, qui est Abdullah Ilazovic, qui a 25 ans, qui est le nouvel élu du côté de Brčko, qui est cette ville de 37 000 âmes située au bord de la Save et qui marque la frontière nord entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Mais l'heure tourne et il faut absolument parler de Sarajevo. Donc les auditeurs se plongeront dans votre reportage pour le découvrir. Parce que dans ce paysage, il y a quand même une petite lueur d'espoir qui scintille du côté de Sarajevo avec cette coalition antinationaliste qui vient de remporter l'élection. On a un social-démocrate serbe qui va devenir en janvier le maire de Sarajevo, Bogic Bogicevic. Alors lui, il est moins jeune, hein. C'est un homme qui est connu. Vous nous dites qui il est et ce qu'il porte.
Alors, il faut dire que ce petit parti antinationaliste a réussi pour la première fois, notre parti, à s'allier avec les sociaux-démocrates et puis avec un nouveau parti qui est un parti dissident d'ex-nationalistes bosniaques musulmans, mais qui sont dorénavant sur une ligne antinationaliste qui s'appelle Peuple et Droit. Pour la première fois, ils ont réussi à faire une coalition qui fait qu'ils ont gagné. Et alors ça, c'est déjà très fort. Et puis ensuite, les deux symboles forts, c'est que le parti le plus antinationaliste de la coalition, dont notre parti a réussi à faire élire dans la municipalité du centre-ville, il y a quatre municipalités à Sarajevo, comme quatre arrondissements, si vous voulez, un antinationaliste serbe. Et ensuite, ces quatre conseils d'arrondissement se réunissent pour élire un maire, et là, ça va être un social-démocrate serbe. Et donc, c'est très fort dans une ville qui est évidemment à majorité bosniaque musulmane depuis la fin de la guerre. Non seulement ils font élire des antinationalistes, les Sarajeviens ont élu des antinationalistes, mais cette coalition antinationaliste a choisi deux Serbes pour l'arrondissement du centre et pour la tête du conseil municipal de la ville entière. Et c'est pas un Serbe ordinaire, donc puisque c'est le Serbe qui était le dernier représentant de la Bosnie à Belgrade au sein de la présidence collégiale en 91, et c'est le seul Serbe, même si lui il se sentait déjà bosnien, sans doute il représentait la Bosnie, mais enfin c'est le seul Serbe qui a dit non à Milosevic.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement cette lueur d'espoir, cet anti-nationalisme, il vit encore du côté de Sarajevo?
Eh ben, écoutez, Sarajevo est une ville aussi, alors, fracturée, elle, pas par la guerre et pas par des lignes de front, parce que elle a résisté au siège et elle a été, et même les quartiers qui lui échappaient lui ont été rendus après l'accord de Dayton, ce qu'on a appelé la réintégration, la réunification de Sarajevo. Mais en revanche, elle est divisée quand même un peu en deux populations, c'est-à-dire qu'il y a la population d'avant-guerre et de la guerre et du siège, et pour elle, franchement, pour cette population, rien n'a changé. Donc ils sont toujours aussi antinationalistes, toujours aussi multiethniques, ils font des mariages mixtes. C'est le Sarajevo, l'art de vivre de Sarajevo tel qu'il a toujours existé, tel qu'on l'a beaucoup raconté ces 30 dernières années. Et puis il y a l'autre moitié de la population qui sont des réfugiés des campagnes, des territoires perdus au profit des armées serbes et croates, qui sont évidemment, eux, homogènes, qui sont tous bosniaques musulmans, puisque c'est eux qui ont été déportés, expulsés de ces territoires, et qui, eux, évidemment, sont plus nationalistes, plus communautaires, que les Sarajeviens d'avant. Donc Sarajevo est une ville qui se cherche un peu entre ces deux communautés, et c'est la première fois, 25 ans après la paix, et 12 ans après la création de ce parti, certes modeste, mais radicalement antinationaliste, que la donne politiquement a changé.
Et est-ce que vous pensez que la jeunesse va pouvoir porter cet élan-là, ou cette fracture que vous décrivez, dont on disait que finalement, 25 ans après Dayton, elle était toujours bel et bien là? Vous pensez que dans 25 ans, quand je vous réinviterai, Rémi Ourdan, cette fracture, elle sera toujours là?
J'en suis fiche de rien, puis je fais jamais de prédiction, parce qu'on se trompe.
Mais oui, souvent, toujours, oui.
Si vous voulez, pour l'instant, je constate quand même que... vous savez, c'est un pays qui avait perdu, non seulement n'existe pas vraiment, mais qui avait perdu la moitié de sa population pendant la guerre. Il semblerait, on n'a pas de statistiques officielles, mais les think tanks un peu intelligents qui travaillent là-dessus disent que quasiment la moitié de la population de 1996 est partie depuis. Alors, pas à Sarajevo, Sarajevo a gagné des habitants, mais depuis le jour du cessez-le-feu, mais c'est quand même un pays d'où les jeunes partent. C'est un pays où les jeunes cherchent des visas de travail, des visas d'étudiants, etc. Donc il y a le nationalisme, il y a la division ethnique, mais il y a aussi plus de 50% de chômage. Il y a, c'est un pays pour lequel les prédictions sont quand même très très sombres. Après, ces jeunes Sarajeviens, pour la première fois, se sont rués vers les urnes, et c'est la première fois parce qu'en fait, ils n'étaient pas hyper nationaux. nationalistes, ils étaient juste abstentionnistes depuis 25 ans, parce qu'ils sont amers, parce que l'après-guerre est absurde. Là, ben, une fois, ça a démontré que quand ils se déplacent, ils peuvent renverser la table politiquement. Donc maintenant, ça va dépendre de ces élus, à eux de réussir et à convaincre qu'ils peuvent exercer le pouvoir.
Merci Rémi Ourdan. J'invite les auditeurs évidemment à lire, relire ce reportage absolument formidable sur cette jeunesse bosnienne sur le site du monde.fr. Et puis évidemment, pour ceux qui l'auraient pas vu ou qui voudraient le revoir, je rappelle que vous êtes co-auteur avec Patrick Chevel de cet excellentissime documentaire, Le Siège, qui avait été diffusé il y a quelques années, je sais plus exactement, 2016 je crois. Merci infiniment Rémi Ourdan.
Merci beaucoup, merci. Kak je one mojne da ih šutamo Jebo kluba, sutra na župla smo Otmemo gitare da im lupamo Haška za blanka, užasno Zna da za manta, uglavno Ohoho. Za time imali bi barakije Sipali bi nam sangrije Vera se, ako nekog ne Razbije, rigali mi na palmice Zamisli ona namigne Šta mi se onda navire Ak se odma nadigne e, Mlade bile, da se igramo Hladne pive, sunce piči Mi raštiljamo, sike slikamo Vice idu viralno Cvike cipe se makidamo
Et voilà, c'est avec ce rappeur bosniaque, une petite pépite, une petite perle qu'a déniché Benjamin U. Évidemment, comme à chaque fois, on vous met la référence sur la page de Culture Monde. Très souvent, on a des mails pour nous demander. C'est toujours sur la page de Culture Monde, et notamment ce rappeur bosniaque. On tourne cette page bosnienne et nous prenons la direction de la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'un nouveau rapport vient d'être publié éclairant le sort réservé aux Ouïghours, cette minorité turcophone originaire du Xinjiang. Mais si les atteintes aux droits de l'homme sont connues depuis longtemps, du côté des autorités de Pékin, on nie évidemment ces accusations, on rejette la systématisation d'une politique répressive à leur encontre.
Les travailleurs de toutes les ethnies du Xinjiang signent des contrats de travail avec des entreprises sur la base de leur propre choix de profession, sur une base volontaire et égale, conformément à la loi. Ils ne subissent aucune discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, le sexe ou les différences religieuses.
La plupart des rapports publiés par la propagande sont très instructifs, car ils sont la preuve de ce que le gouvernement chinois fait sur place. La preuve que dans de tels villages, 500 Ouïghours ont été mobilisés pour faire ce que le gouvernement leur disait de faire. La preuve que les envoyés du gouvernement font du porte-à-porte jusqu'à ce que la transformation opère.
Voilà, on entendait dans l'ordre d'abord le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois et puis l'anthropologue allemand Adrian Zenz à l'origine de ce nouveau rapport qui s'est appuyé sur des dizaines de milliers de documents officiels. C'est un rapport qui révèle notamment comment Pékin envoie de force des travailleurs, des travailleuses dans les champs de coton par centaines de milliers. Alors que se passe-t-il précisément au Xinjiang? Quel sort Pékin réserve-t-il à sa minorité ouïghour? Et comment cette question aussi est traitée au niveau politique, au niveau diplomatique, à la fois du côté des États-Unis mais aussi du côté de l'Europe? Bonjour Vanessa Franville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'études chinoises à l'Université libre de Bruxelles. On devrait retrouver dans quelques instants Marc Julienne. On me dit qu'il est là. Bonjour Marc Julienne. Il s'appellera d'être local. On va essayer de le retrouver. Marc Semo, en revanche, du Monde est avec nous. Marc, vous êtes là?
Ben oui,
allez,
bonjour.
Bonjour Marc, on va faire comme chaque vendredi, on va commencer avec vous. Alors c'est vrai que ça fait évidemment des années qu'on parle de cette question ouïghour, mais on sent là quand même que on en parle et de plus en plus. On a eu aux États-Unis l'été dernier une loi qui a été votée pour déclencher des sanctions contre plusieurs hauts responsables chinois. On a du côté du Parlement européen un projet de résolution d'urgence sur le travail forcé dans les champs de coton au Xinjiang. Alors bien sûr, tout cela n'est pas nouveau, mais cette question ouïghour est en train de devenir petit à petit une question politique et diplomatique. Alors de premier rang, on va voir, mais en tout cas de plus en plus important et qui probablement dans les années qui viennent sera au cœur des tensions entre Pékin et les démocraties libérales, Marc.
C'est probable. La question ouïghour arrive enfin sur le devant de la scène diplomatique, mais ce qui est frappant, c'est le silence des dirigeants des pays musulmans. Un silence assourdissant. Un peuple musulman, turcophone, est menacé d'anéantissement dans sa culture, voire dans son être. Mais à Riyad, comme au Caire, et surtout à Ankara, il n'y a pas un mot. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, si prompt à dénoncer la prétendue islamophobie des autorités françaises, et qui pourfendait il y a 10 ans le génocide, il employait le mot des Ouïghours, qui sont des Turcs, enfin des turcophones, au Xinjiang, aujourd'hui ne dit plus rien, et mieux encore, la Turquie a passé des accords d'extradition avec la Chine en 2017, renvoyant de nombreux réfugiés ouïghours. Alors, dans nos colonnes, Dilnur Rehan, qui est une intellectuelle ouïghour, s'indignait, à raison, de cette colère sélective. Alors, pourquoi ce silence, alors que justement, comme tu le disais, les Américains, les Européens commencent à se mobiliser? La raison, c'est le fait que la Chine est de plus en plus présente au Moyen-Orient, qui est une région essentielle pour ses approvisionnements en hydrocarbures. Elle arrive à s'arranger avec tout le monde, elle soutient tous les autocrates en place, elle arrive à être célébrée aussi bien par les sunnites que par les chiites, à être reçue et à traiter aussi bien avec Téhéran qu'avec Israël, et dans cette logique-là, elle bénéficie du soutien sans faille des pays musulmans, y compris au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Voilà, c'est des soutiens qui se monnaient en réalité. Et tu parlais, Marc, de cet accord d'extradition signé du côté de la Turquie. Il a été d'extradition de réfugiés ouïghours. Il a été signé en échange d'investissements chinois. Donc on voit bien que cette question-là va être demain de plus en plus prégnante. Je pense qu'on doit avoir, ça y est, Marc-Julien avec nous. Marc-Julien, vous nous entendez ?
Bonjour, oui.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre d'Asie de l'IFRI, vous êtes le responsable des activités Chine. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Vanessa Franville, on va commencer avec vous. Ça fait longtemps, je le disais, que la question ouïghour retient l'attention des chancelleries. C'est vrai, mais il semble quand même que là, de plus en plus, elle soit sur le devant de la scène. Elle est évidemment à l'agenda au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis longtemps, mais c'est de plus en plus problématique. On a eu, il y a quelques mois, un échange extrêmement vif autour de cette question dans une commission. Il y a en juin dernier, je le rappelais tout à l'heure, cette loi qui a été votée du côté du Congrès américain. Il y a du côté aussi européen des tentatives, des velléités pour essayer de prendre des sanctions. On a, je vais en citer un autre, le pape par exemple, qui dans son dernier livre a mentionné le sort, je cite, des pauvres Ouïghours. Vous avez l'impression, Vanessa Franville, que enfin, j'allais dire, cette question Ouïghour devient un enjeu politique central alors qu'il était resté trop longtemps assez marginal, en tout cas au regard de la gravité de la situation, Vanessa Branville.
Oui, tout à fait. C'est une situation qui perdure avec des degrés de violence différents, évidemment, depuis en réalité la fin des années 80, donc c'est une vieille histoire. Et on voit que les choses bougent, ne serait-ce qu'entre 2018, lorsque l'ONU a sorti son rapport, et aujourd'hui. La façon dont on peut parler de cette problématique avec aussi bien la population civile que l'ensemble des dirigeants politiques a complètement changé. Donc il y a une prise de conscience très forte qui s'accompagne d'une réflexion éthique, je pense aussi. Et on est passé aussi, il me semble, à des actes, disons, symboliques, comme par exemple le passage de résolution au Parlement européen, l'octroi du prix Sakharov, par exemple, à un économiste ouïghour qui est emprisonné à vie, à une conscientisation qui pourrait mener à des actions beaucoup plus ferme et sans doute aussi plus efficace pour faire pression sur l'État chinois. En tout cas, aux États-Unis, c'est déjà en partie lancé. Maintenant, en Europe, je crois qu'il y a en tout cas une volonté d'aller dans ce sens, au moins en principe.
Marc-Julien, est-ce que vous rejoignez cette analyse? Et puis, pour peut-être aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il vous semble que du côté de Pékin, ça peut avoir de l'effet? Parce que il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'en réalité, c'est précisément l'absence de réaction de la communauté internationale qui a poussé Pékin à accroître sa répression vis-à-vis des Ouïghours. Est-ce que vous rejoignez cette analyse? Est-ce qu'il vous semble que la pression diplomatique de la communauté internationale est nature à faire reculer cette répression? Sinon la cesser, mais en tout cas la faire reculer. Marc-Julien.
Alors oui, je rejoins ce qui a été dit. La prise de conscience, elle est là. Oui, vous m'entendez?
Oui, ça y est, on vous entend. Il y a un petit décalage, c'est pas grave, vous allez pouvoir enchaîner. Je vous en prie.
Ah, d'accord. Donc je disais que je rejoignais ce qui a été dit. La prise de conscience est là. La communauté internationale ne peut plus détourner le regard de ce qui se passe au Xinjiang. Et du coup, ça c'est un calcul qui doit être pris en compte dans les relations bilatérales et multilatérales avec la Chine. En revanche, pour la poursuite de votre question sur qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement, les moyens sont assez limités. Les États-Unis ont pris des mesures, des sanctions. L'Union européenne, enfin le Parlement européen pour être précis, a voté hier une résolution et s'est doté début décembre d'une boîte à outils pour appliquer des sanctions sur le modèle américain en matière de droits de l'homme. En revanche, c'est des sanctions qui sont encore très limitées, mais les leviers sont eux-mêmes limités en matière de droit international pour faire pression sur la Chine.
Vanessa Franville, est-ce qu'il vous semble que Pékin peut entendre cette pression et peut-être bouger un peu? Parce que, évidemment, du côté des autorités chinoises, on ne cesse de rejeter ces accusations. Mais il n'empêche qu'on arrive aussi parfois à concéder un certain nombre de choses. Par exemple, au départ, Pékin refusait d'admettre qu'il existait des camps. Et puis finalement, devant les preuves avancées, notamment celles apportées par Adrian Zenz, on va peut-être y revenir, elle a concédé avoir construit ce qu'elle appelle elle, alors évidemment tout est une question de vocabulaire, on va le voir, des centres éducatifs et de formation professionnelle. Mais jusqu'où Pékin est prête selon vous à aller? La marge de manœuvre pour faire reculer cette répression selon vous, Vanessa Franville?
C'est très difficile à dire dans le sens où le Parti communiste chinois n'est pas une entité monolithique qui prend des décisions avec l'adhésion de l'ensemble de ses membres. Donc on voit bien qu'il y a des tensions, voire des dissensions, notamment avec ces documents qui nous sont parvenus, qui ont fuité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur vraiment du parti et quelles sont les batailles internes? On les connaît très mal, voire on ne les connaît pas du tout. En tout cas, à l'heure actuelle, sous la direction de Xi Jinping, ce qu'on voit, c'est que les différentes formes de pression internationale ou les réactions n'ont pas d'effet, à mon sens. Il y a vraiment une réponse, au contraire, de plus en plus assertive et de plus en plus agressive de la part de Pékin. On a vu des échanges entre des ambassadeurs et différents dirigeants politiques qui atteignent les limites de la diplomatie. Et donc cette action que prend l'État chinois de sans arrêt donner une nouvelle version avec un nouveau vocabulaire pour exprimer une vérité différente de ce qu'il se passe sur place, c'est une façon de détourner l'attention, de ne pas répondre aux questions et de montrer que Pékin peut aussi maîtriser le discours sur ce qu'il se passe. Voilà. Donc je ne vois pas, je suis pas très très optimiste pour être honnête sur les possibilités à ce stade de faire changer Pékin de direction. Je crois que le changement viendra de l'intérieur en réalité. Mais c'est en affirmant des soutiens extérieurs que ça peut changer aussi de l'intérieur. Donc voilà, il y a des enjeux très très variés.
Marc Semo, vous vouliez intervenir?
Oui, alors prenons un exemple concret, celui du coton. On s'est aperçu avec le dernier rapport qui avait été publié par un certain nombre d'organisations de droits de l'homme et par la BBC, le Guardian, Libération, que une grande partie du coton, la plus grande partie du coton recueilli en Chine, était notamment avec une main-d'œuvre quasi forcée ouïghour. Est-ce qu'il n'y aurait pas les moyens de prendre très directement des sanctions concrètes sur justement les exportations de coton chinois?
Vanessa Franville.
Et puis ensuite, est-ce que l'Europe ne pourrait pas prendre cet exemple qui est très illustré et très concret pour justement décider de choses, des sanctions qui ne soient pas des sanctions somme toute assez symboliques décidées jusqu'ici par exemple par Washington?
Vanessa Franville, c'est vrai que là ça serait du concret.
Moi, je ne suis pas une experte économiste, donc je vais simplement donner mes impressions en fonction des informations que je reçois. Ce que je comprends, c'est que finalement, c'est très difficile de repérer ce coton chinois parce que il part à un moment donné de la région ouïghour, il arrive au sud de la Chine, il passe par le Vietnam, par le Bangladesh, et puis lorsqu'il arrive jusque chez nous en Europe, il a été transformé x fois, et il est passé par de nombreux pays. Et donc la grande difficulté à ce stade, c'est de demander aux entreprises d'avoir une connaissance totale, absolue, sur l'ensemble de la chaîne de production. Et comme le précisait Glucksmann ou d'autres sur d'autres plateformes, il y a une vraie difficulté à faire ce traçage. En même temps, ce que nous dit l'Institut australien, qui a publié un rapport aussi très important en mars cette année, qui est un peu passé inaperçu parce que c'était le début de la crise du Covid, mais ce rapport australien de l'ASPI nous dit que eux ont réussi à faire ce traçage et que s'ils peuvent le faire, il n'y a pas de raison que les entreprises ne savent pas le faire. Voilà. Donc je suis assez partagée là-dessus. Je ne sais pas si il y a une excuse qui nous est donnée de la part des entreprises qui tient effectivement à la à la globalisation de la production, ou s'il y a une réelle possibilité de faire ce traçage. Et alors oui, comme vous venez de le dire, effectivement, de pouvoir bloquer à l'entrée des portes de l'Europe un certain nombre de produits.
Je vais poser la question à Marc Julien. Je ne vous oublie pas, je vous donne la parole tout de suite, mais je vais poursuivre un tout petit instant, si vous le permettez, Vanessa Franville, avec vous. Parce que sur cette question du coton, c'est des informations qui nous viennent de ce travail considérable de cet anthropologue allemand que je mentionnais tout à l'heure, qui est à la fois un travail qui est remarquable parce qu'il s'appuie sur des milliers de documents officiels des autorités chinoises et qui en même temps porte une certaine fragilité parce qu'il y a beaucoup de ses conclusions qui sont le résultat d'interprétations, je le disais tout à l'heure. Il faut traduire en réalité le langage de la propagande chinoise pour comprendre ce qu'il y a réellement derrière tous ces documents. Et malheureusement, il est très difficile, voire impossible, d'avoir accès au terrain et donc d'étayer tout cela avec des preuves matérielles, même si évidemment, il existe des images de ces camps, il existe des témoignages de personnes qui ont été enfermées. Mais votre regard sur ce travail qui a été fourni d'Adrian Zen, c'est sur ses conclusions, Vanessa Franville.
Mais Adrian Zen, c'est le premier à reconnaître qu'effectivement, il manque des chiffres et des données, que c'est une recherche qui ne pourra jamais être complète, ou en tout cas qui est toujours en cours. C'est le propre, j'ai envie de dire, de la recherche scientifique, d'ailleurs. Ce qui est important, je crois, de regarder, c'est effectivement la multitude de documents qu'il analyse, et les méthodologies qu'il utilise et qui, à mon sens, ne sont pas à remettre en cause. C'est dû aussi à la situation actuelle qui interdit l'accès au terrain, réduit les chances de pouvoir discuter avec des personnes qui pourraient témoigner de ce qui se passe.
Bien sûr.
Et qui empêche évidemment d'avoir un accès facilité à la documentation. Donc déjà, il a fait un travail absolument énorme. Donc pour moi, c'est un chercheur qui est tout à fait, qui mène un travail d'une minutie incroyable. Et les manques autour de cette recherche sont les manques propres à la situation et à la recherche scientifique, disons.
Marc Julien, je vous fais réagir à la question de Marc Semaux tout à l'heure à propos du coton qui effectivement pourrait être un levier sur lequel les Occidentaux pourraient agir. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a par exemple la question des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 qui seront organisés par la Chine. Le Royaume-Uni a évoqué la possibilité de boycotter ces Jeux Olympiques. J'imagine que du côté de Pékin, ça ferait pas tellement plaisir. Vous pensez qu'on a là des leviers, le coton, les JO, qui peuvent permettre d'obtenir des avancées, Marc-Julien ?
Oui, je partage le pessimisme de Vanessa Franville, mais sur la dimension politique reste néanmoins importante. Donc tout signal politique est une pression supplémentaire sur la Chine. Et les gouvernements sont timides, même s'ils se prononcent de plus en plus. On a cité les États-Unis, l'Europe, le Canada est très en pointe aussi sur le Parlement canadien sur ce qui se passe au Xinjiang. Je crois qu'aussi la place, le rôle de la société civile, des sociétés civiles, est extrêmement important. Je viens de citer donc le footballeur Griezmann, sa prise de position a été relayée dans le monde entier. Quand les sociétés civiles...
J'indique pour les auditeurs, parce que tout le monde ne suit pas ni l'actualité d'Antoine Griezmann, ni celle de Huawei, qui était son partenaire. Mais en gros, Antoine Griezmann, footballeur professionnel, a annoncé la rupture de son partenariat avec Huawei au motif que l'entreprise de télécommunications participe de la surveillance généralisée dont font l'objet les populations du Xinjiang. Je ferme la parenthèse et je vous laisse la parole, Marc-Julien.
Exactement, voilà. Et développait des systèmes de reconnaissance faciale qui permettaient d'identifier les Ouïghours. Donc voilà. Donc quand les sociétés civiles se saisissent de ces questions-là, les pouvoirs publics dans les démocraties occidentales sont contraintes de réagir à un certain moment. Les mesures, pour répondre à la question sur le coton, les sanctions aujourd'hui sont limitées. Les sanctions dont disposent les États-Unis, maintenant l'Europe, ce sont des sanctions qui visent des individus sur leurs avoirs à l'étranger, donc par exemple en Europe, sur leur capacité à voyager aux États-Unis en Europe. Donc ça peut être limité, surtout que tous les responsables chinois du parti qui sont impliqués dans ce travail forcé ou dans ces internements massifs n'ont pas tous une maison en Europe. Donc, mais par contre, c'est déjà une première pression. Le fait qu'on en parle, le fait que la Chine soit mise sur le devant de la scène internationale, sous le feu des projecteurs, pour des questions de violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle du coton. Le dernier rapport de juin parlait quand même de stérilisation forcée, donc de contrôle des naissances forcées, qui est l'un des critères des Nations Unies pour qualifier un génocide. Donc il y a quand même des éléments qui font que la Chine est de plus en plus acculée à devoir se justifier d'une manière ou d'une autre.
Alors il y a aussi peut-être un autre élément, et je poursuis cette fois avec vous Marc Julien, qu'on pourrait mettre en avant quand on regarde un peu les leviers qui existent sur Pékin, il y a la question de la CPI. Alors il y a quelques jours, les procureurs de la Cour pénale internationale ont refusé d'enquêter sur la situation de la minorité musulmane dans cette région, au titre que la Chine n'est pas membre de la CPI. Mais on a quand même des moyens de lancer des enquêtes. Alors, il y a la possibilité d'utiliser la double nationalité de victimes qui appartiendraient à un pays qui, lui, est signataire. Par exemple, au hasard, on a des victimes qui ont la nationalité du Tadjikistan, qui sont du Tadjikistan. Or, le Tadjikistan, lui, a signé le traité de Rome. Est-ce qu'on pourrait pas se retrouver quand même à parvenir à obtenir une enquête dans un premier temps, en tout cas une action de la part de la CPI, et avec quel effet possible sur Pékin, Marc Julien?
Ben, je crois que la réponse a été rendue, puisque la procureure de la CPI a dit qu'elle n'était pas en mesure de mener une enquête. Alors, la presse internationale a titré, ou en tout cas en France, a titré que c'était un refus de la CPI. Je ne sais pas si on peut parler de refus. Je crois que la Cour s'est prononcée comme pas compétente pour mener cette enquête. Donc moi, je ne suis pas juriste spécialiste de droit international, donc je ne serais pas en mesure d'aller contredire la procureure de la Cour pénale internationale. En revanche, le problème fondamental, je pense, et c'est pour ça que les seuls leviers qu'on a aujourd'hui, ils sont plutôt politiques, ils sont plutôt de symboliques même parfois, ou de boycott. Le problème fondamental, c'est que la communauté internationale, ce qu'elle demande aux autorités de Pékin, c'est de pouvoir laisser entrer des observateurs indépendants. Donc indépendance, ça veut dire qu'ils peuvent se mouvoir comme ils l'entendent dans la région du Xinjiang et aller inspecter les régions qu'ils veulent. Et la Chine se refuse à ça puisqu'elle considère, et c'est son argument principal, c'est que ce qui se passe au Xinjiang, ce sont des affaires intérieures qui ne concernent personne, et toute volonté d'aller enquêter là-bas serait considérée comme une interférence. Donc c'est évidemment complètement paradoxal avec les engagements internationaux de la Chine, et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme dont la Chine est signataire.
Vanessa Franville, ça fait longtemps que les Ouïghours font l'objet d'une politique répressive de la part de l'État central. Si on faisait un peu d'histoire, en réalité, on verrait que déjà au moment de l'avènement de la République populaire de Chine, on avait une répression très forte à l'égard de ces populations. Mais il semble, quand on regarde l'histoire plus récente, qu'il y ait eu un tournant dans les années 2010. Est-ce que vous confirmez ce tournant, Vanessa Franville, et comment l'expliquer?
Oui, peut-être même avant, en 2009, lorsque des affrontements se déroulent dans la capitale de la région autonome du Xinjiang, entre Han et Ouïghours. Je crois plutôt que c'est l'accumulation, en réalité, d'une série de mesures politiques très très difficiles, de répression très rude. De la part des autorités, des forces de l'ordre qui représentent l'État chinois contre les Ouïghours. C'est cette accumulation, je crois, qui finalement a mené à des formes d'explosion dans les années 2010, certainement. Je crois que le facteur aussi... c'est-à-dire qu'il y a eu des effets à retardement. Par exemple, les Ouïghours, comme l'ensemble des minorités chinoises, avaient des accès privilégiés à l'université, avaient des accès privilégiés à l'emploi public. Et donc, par exemple, l'emploi public a disparu progressivement à partir des années 90, ce qui signifie que ces emplois qui étaient plus accessibles aux Ouïghours ont disparu. Et là, ils ont dû faire face à la discrimination à l'embauche qui est très généralisée dans la région, et surtout à une migration extrêmement forte de migrants chinois à Han, des terres intérieures. Donc on est arrivé, en fait, dans les années 2010, à cette situation qui était dénoncée déjà depuis des années, notamment par l'économiste ouïghour que j'évoquais tout à l'heure, Ilham Torti, qui voyait l'impasse dans laquelle on allait se retrouver, mais les politiques continuaient, si vous voulez, à être menées de façon aveugle, avec cette idée que le développement économique allait résoudre tous les problèmes. En réalité, le développement économique, il se fait de façon parallèle entre les Ouïghours et les Han. Il se fait souvent au détriment des Ouïghours. Et puis, surtout, il se fait à l'avantage du centre, donc de Pékin.
Mais Vanessa
Franville, le tournant, il est là.
Ouais, Vanessa Franville, et ensuite je vous donne la parole, Marc Semo. Mais Vanessa Frankville, le discours, le récit de Pékin, c'est que en réalité cette répression, elle est liée à la menace terroriste, qu'il faut lutter contre des groupes radicaux qui, ces dernières années, se sont lancés dans des attentats terroristes. Et effectivement, il y a eu ces dernières années un certain nombre d'attentats qui ont été perpétrés par des Ouïghours, qui ont été revendiqués par des groupes, 2008, 2013, 2014, 2015. Si on regarde la menace aujourd'hui, quelle est-elle ? La menace terroriste.
Évidemment, à ce stade, la menace est quasiment nulle.
Inexistante.
Tout le monde est en camp. Mais auparavant, le problème, c'est ce qu'il faut regarder, c'est auparavant. Auparavant, elle était aussi extrêmement faible. Tous les chercheurs s'accordent là-dessus. Il faut lire le dernier livre de Sean Roberts sur la question, chercheur américain à Washington. Il est très clair que la Chine classifiait un ensemble de soulèvements d'origine socio-économique comme des actes terroristes. Donc c'est comme si vous décidiez que une émeute qui se tient dans une banlieue parisienne ou lyonnaise était un acte terroriste, alors que ça répond en général à une tension vive due par exemple à une attaque contre un membre d'une communauté par un autre membre d'une autre communauté, etc.
Oui, j'entends bien Vanessa Frankville, mais là il faut aussi essayer d'être un peu équilibré, c'est-à-dire que alors après peut-être que les informations que j'ai lues sont tout à fait fausses, mais il semble qu'il y ait des attentats qui sont vraiment des attentats, des attaques au couteau, des kamikazes, je pense à la à la pièce Tiananmen, par exemple, à Pékin, où là, il y a des morts à la clé,
c'est pas des émeutes, là. Prenons par exemple le cas de Kunming, donc, qui est une ville au sud de la Chine, qui est très loin de la région ouïghour, dans laquelle a eu lieu un attentat au couteau, et ça a fait des dizaines de blessés et plusieurs morts dans la gare de cette ville de Kunming. C'est un attentat qui n'a en réalité jamais été revendiqué par aucune organisation, voilà, mais qui est classifié par Pékin comme un acte terroriste. Prenons l'exemple de Pékin, lorsque une voiture rentre dans la foule sur la place Tiananmen, dont on nous a dit après coup que on avait retrouvé un message et un drapeau du Turkestan oriental qui revendiquait un attentat, message que nous n'avons jamais eu l'occasion de voir, etc. Donc il y a aussi il y a certainement des manifestations individuelles fortes, mais de là à les relier à une organisation terroriste, il y a vraiment du chemin à faire. Donc c'est par ailleurs, dans la même année, vous avez eu une personne, Han, qui a tenté de se faire exploser dans l'aéroport de Pékin. Il a raté. On n'a jamais entendu parler de cet acte comme un acte terroriste. Pourtant, il me semble qu'il y correspond. Donc voilà, les qualifications sont très vagues. Les revendications n'existent pas toujours. Et ça ne nous mène pas à conclure à une organisation pensée, préméditée sur chaque acte qui constituerait une vraie menace pour l'État chinois.
Voilà qui est parfaitement clair. Marc Semo.
Alors justement, sur ce point, la situation de la répression au Xinjiang, entre stérilisation forcée, les camps d'internement, a l'air bien pire qu'au Tibet. Alors d'abord, pourquoi, à ce point, est-ce à cause aussi des enjeux économiques du Xinjiang et de ses réserves en matières premières? Et deuxièmement, comment expliquer aussi le fait que la sensibilisation à l'étranger, la mobilisation a été très forte sur le Tibet et finalement, jusqu'à très récemment, est restée quasiment inexistante à propos du Xinjiang et des Ouïghours.
Marc Julien, peut-être, sur le Xinjiang, on en parle beaucoup, peut-être plus que le Tibet, parce qu'il y a des enjeux économiques à la clé colossaux.
Il y a sans doute des enjeux économiques, mais c'est probablement le fait que le Tibet soit représenté par le Dalai Lama, qui est une figure internationale connue dans le monde entier, et puis qui s'est exporté, puisque le gouvernement justement en exil du Tibet, est basé en Inde, et le Dalai Lama voyage énormément. Les Ouïghours n'ont pas de représentants. Alors il y a des organisations, il y a le Congrès mondial ouïghour, et puis il y a de nombreuses associations, organisations ouïghours, mais c'est beaucoup plus diffus. Donc il n'y a pas vraiment une tête de proue et qui peut permettre de porter le discours de manière unifiée des Ouïghours sur la scène internationale.
Vanessa Frankville.
Oui, c'est une bonne explication, évidemment. Je crois aussi que depuis 2001 en particulier, l'État chinois a profité de cette guerre mondiale contre le terrorisme islamiste pour diffuser un imaginaire des Ouïghours comme des personnes extrêmement violentes, etc., quand on a une image beaucoup plus pacifiste des Tibétains. Donc il y a un imaginaire aussi du Tibet qui est beaucoup plus ancien, hein. Il y a une espèce de Tibet virtuel qui existe dans les imaginaires de tout l'Occident. Donc ça joue aussi, on n'a pas du tout la même image. Il faut le dire, il y a une islamophobie généralisée. Et donc je crois qu'aussi présenter dans le discours chinois les Ouïghours comme des terroristes musulmans, c'est un amalgame qui passe très bien finalement pour des personnes qui ne connaissent absolument rien de la région.
Mais est-ce que vous pensez que au cœur de tout cela, finalement, Vanessa Franville, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la question de l'islamophobie. Parce que ça fait des années, on l'a dit, que Pékin déploie sa politique répressive à l'encontre des Ouïghours, avec ce rejet de la culture, de la langue, ce transfert de population que vous évoquiez tout à l'heure, de population Han, minorité, enfin majoritaire en réalité en Chine, qu'on incite à aller s'installer dans le Xinjiang pour rendre les Ouïghours plus marginal, au point qu'aujourd'hui on a autant de Han que de Ouïghours. Mais finalement, qu'est-ce qui pose problème avec les Ouïghours? Pourquoi ils représentent une menace pour le régime chinois et le projet politique, sa vision du monde telle qu'il l'apporte aujourd'hui?
Ce qui pose véritablement problème, c'est l'altérité, en fait. C'est le problème que posent les Tibétains, les Mongols, les Ouïghours, toute forme alternative d'une identité nationale et n'est pas acceptable pour le Parti communiste chinois. La Chine, c'est un État ethno-nationaliste, donc qui considère que sa nation repose sur ce que vous avez appelé à juste titre, c'est quand même 92% de la population, la majorité Han, et que tout modèle qui se dégagerait de cette identité nationale ou qui même s'opposerait à cette identité nationale sont des groupes problématiques. Et c'est exactement ce qui se passe.
Ça a été problématique depuis le début, parce que quand on regarde les choses, Vanessa Franville, dès le départ, dès le début de la République populaire de Chine, on a conscience de cette diversité ethnique et d'une certaine manière, la Constitution, d'abord la mentionne, mais s'en porte garant. Quand on regarde le drapeau chinois, on a une étoile jaune et puis d'autres étoiles autour. En fait, ces étoiles-là, elles représentent ces différentes ethnies. Alors quoi, c'était simplement de l'affichage, l'idée de cette... cette nation pluriethnique, c'était une pure image, mais en réalité, derrière tout cela, dès le départ, on refusait ce caractère multiculturel, ce caractère multiethnique.
Je ne sais pas si les étoiles sur le drapeau.
C'est ce que j'avais lu. Après, je me trompe peut-être. On va vérifier.
J'avais en tête les classes sociales, mais voilà.
J'avais en tête les étoiles. En tout cas, vous confirmez que dans la Constitution, on mentionne cette diversité ethnique.
Oui, tout à fait.
Ethnique.
Vous avez tout à fait raison.
La Constitution se porte garante de cette diversité. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr.
Tout à fait. Donc, la capacité des minorités ethniques à préserver leur culture et leur langue est protégée par cette Constitution révisée en 1982. Ce que fait actuellement l'État chinois est en réalité anticonstitutionnel, et c'est ce que disent beaucoup de juristes qui spécialisés sur la Chine. Donc il y a effectivement, si vous voulez, depuis justement les années fin des années 2000, début des années 2010, ce qu'on appelle en Chine la seconde génération de politique ethnique, c'est un peu un terme un peu pompeux, mais donc c'est une génération de chercheurs et de politologues qui s'interrogent sur la mise en place de politiques visant justement à protéger les cultures des minorités ethniques. Et leur argument, c'est que ces politiques ont en réalité renforcé le sentiment ethno-nationaliste de ces minorités. Et que donc il faut faire cesser ces politiques qui jusque-là privilégiaient les minorités sur certains plans et leur donner une certaine autonomie pour pouvoir maintenir justement des écoles bilingues, une possibilité de perpétuer leurs traditions, etc. Donc là, on a un changement qui n'est pas officiel, qui est tout à fait officieux, mais qui est réel. On est passé à une politique qui vise à une fusion, si vous voulez, de ces minorités avec ce qu'on détermine vaguement comme une majorité Han. Et ça passe par un ensemble de mesures politiques qui ne sont pas reconnues comme étant de cette seconde génération, mais qui, de fait, le sont, et qui sont des mesures qui peuvent prendre des tournures assez violentes, comme l'internement, comme la promotion des mariages interethniques, comme l'incitation... par exemple, à fêter, à célébrer des fêtes chinoises comme le Nouvel An, etc. Donc on est passé, il y a eu un tournant réel dans les années 2010, et là je pense que les Ouïghours expérimentent en quelque sorte, sont une sorte de laboratoire. De ce passage de, comment dirais-je, de destruction de l'altérité.
Marc Julienne.
Oui, alors je serais complètement d'accord sur la question de l'altérité. Je pense que le mot-clé, c'est effectivement l'ethnonationalisme. La nation chinoise repose sur la majorité ethnique Han, et ça depuis très longtemps. Donc même si la République populaire de Chine, d'ailleurs, s'était engagée, le Parti communiste chinois, avant de prendre le pouvoir en 49, s'était engagé à l'autodétermination des minorités. Et puis une fois qu'il a pris le pouvoir, ça a totalement disparu de la Constitution. Là où je diverge par contre totalement des analyses précédentes, c'est que en 2013-2014, il y a eu, et moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, il y a eu effectivement des attentats terroristes, et que moi je qualifie de terroristes, avec des centaines de morts. Il y en a eu certains qui ont été mentionnés aujourd'hui. Et je pense que Xi Jinping, le président et le secrétaire général du parti actuel, qui est un homme déterminé et qui veut être l'homme providentiel de la Chine, on le voit sur d'autres traités à Hong Kong, à Taïwan, il se présente comme un homme extrêmement fort, et je pense qu'il s'est donné comme objectif de régler le problème ouïghour, parce que les relations entre les minorités ethniques au Xinjiang et le pouvoir central sont troublées depuis plusieurs siècles, et je pense qu'il s'est donné comme objectif de régler ce problème-là. Et je crois que c'est une analyse qui est extrêmement inquiétante, parce que il met tous les moyens, et ces moyens-là sont quasi illimités. Donc c'est pour ça que la situation est extrêmement préoccupante.
Quand vous dites, Marc-Julien, il met tous les moyens, il y a évidemment tous ceux qu'on a évoqués jusqu'ici, c'est-à-dire le volet répressif. Mais il y a aussi toute la question des investissements, du développement du territoire. Parce que cette question ouïghour, elle est aussi, peut-être même avant tout, une question économique et sociale. Et le pouvoir central en a conscience. Il sait parfaitement que le développement du territoire, c'est une condition nécessaire pour espérer régler cette question ouïghour. Quels sont les efforts qui ont été déployés par Pékin en la matière, et peut-être en particulier depuis l'arrivée de Xi Jinping ? Marc-Julien.
Alors je pense qu'il y a eu un changement de stratégie avec Xi Jinping. Jusqu'à son arrivée au pouvoir, la stratégie était le développement apporte la paix. Donc investissons beaucoup, développons les infrastructures, développons l'économie, et ça apportera la paix mécaniquement. C'est un raisonnement qui est extrêmement très très discutable, et Xi Jinping a inversé le raisonnement en se disant on va tout stabiliser, et une fois que ce sera stabilisé de manière très très forte et très très répressive, ensuite on pourra enfin développer l'économie. Et effectivement, le Xinjiang est une plateforme extrêmement importante pour le déploiement des nouvelles routes de la soie. Le projet, là encore, c'est quand même un projet, c'est la tête de proue de la politique étrangère de Xi Jinping qu'il a lancé en 2013. Et donc, il faut absolument que le Xinjiang soit stable pour déployer ces routes de la soie qui traversent l'Asie centrale et qui visent à rejoindre l'Europe.
Eh bien voilà, la ligne est en train de se casser exactement au moment où vous terminez votre propos. Merci infiniment Marc-Julienne d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre Asie de l'IFRI, responsable des activités Chine. Merci également à Vanessa Franville qui est avec nous depuis Bruxelles, qui est professeure d'études chinoises à l'Université libre de Bruxelles. Un grand merci également à Marc Semo, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Cette belle musique ouïghour Tarim du groupe Ketik, menée par le compositeur et interprète ouïghour Perat Kalik. Là aussi, évidemment, on met les références sur la page de Culture Monde. C'est sur ce morceau donc on se quitte. Dans un très court instant, on retrouve Lucille Como et la critique.
France Culture. L'esprit d'ouverture. Oui, France Culture, c'est une radio, mais c'est aussi un grand jeu de société qui s'appelle Prenez l'antenne.
160 ans plus tard, on a enfin mis un nom sur cette célébrité anonyme.
Arnaud Laporte.
Constance Quenniot, identifiée comme le modèle de l'origine du monde de Courbet, l'héroïne d'Histoire d'eau.
À qui les atlantistes s'opposent-ils traditionnellement?
Émilie Aubry.
Aux pacifistes? Aux continentalistes?
Vous êtes curieux et joueur? Alors oui, le nouveau grand jeu de société de France Culture, Prenez l'antenne, est pour vous. En vente en magasin et sur Internet, toutes les informations sur franceculture.fr.
France Culture, partenaire du hors-série Lire, magazine littéraire consacré à la transgression. La transgression fait-elle avancer le monde? Que ce soit en science, en littérature ou ailleurs, le franchissement des limites et de l'interdit a toujours existé. Mais permet-il au monde d'évoluer vers le meilleur? Une thématique proposée aujourd'hui dans le carnet de la philo de Géraldine Mosna-Savoie et dans le hors-série Lire, magazine littéraire disponible en kiosque. Un partenariat France Culture.
Alors, quand ça critique, c'est Lucille. Bonjour Lucille Comeau.
Bonjour Florian Delorme.
Alors, le menu de cette critique du jour?
On va parler de littérature avec Le Goncourt, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, et puis Autobiographie du Rouge d'Anne Carson. Et puis après le journal, c'est cinéma, toujours confiné. On parle du dernier film de Hong Sang-soo, Hotel by the River, sorti en DVD. Et puis un film sorti aujourd'hui sur Netflix, Le Blues de Ma Rainey. Quant à vous, on vous retrouve lundi pour
plaisir.
Une nouvelle série de Culture Monde. Vous êtes bien sur France Culture, il est midi. L'heure des titres du journal avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille. À tous ceux qui en doutaient encore, le Covid-19 n'est pas une grippette. Une étude révèle aujourd'hui que le coronavirus fait 3 fois plus de morts à l'hôpital. Près de 50% des jeunes n'ont pas confiance en la police. C'est ce qui ressort d'un sondage publié ce matin. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il aura, lui, la lourde tâche aujourd'hui de convaincre les forces de l'ordre qu'elles n'ont pas de raison de douter de la confiance du chef de l'État, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. À l'étranger, nous irons tout d'abord au Nigeria, où au moins 300 élèves dont le rapt avait été revendiqué cette semaine par le groupe djihadiste Boko Haram ont été